RFI 14h à Paris, il est 8h à Port-au-Prince. Haïti, où nous serons dans cette demi-heure sur place et face à la violence des gangs armés, notamment dans la capitale, les habitants se retrouvent, en plus de la crise sécuritaire, face à une crise du logement. Prix exorbitant, courtier véreux, il est quasiment devenu impossible de se loger. Reportage à suivre. Le journal des Outre-mer également avec Benoît Ferrand. Benoît, un nom à la une, celui de Rodrigue Petitot.
Oui, le leader du RPRAC sera jugé le 21 janvier prochain et son mouvement à l'origine de la contestation reste mobilisé pour le procès et aussi bien sûr contre la vie chère en ce début d'année.
A tout à l'heure Benoît, nous sommes au Pérou également une dizaine de jours après l'arrivée de vagues destructrices sur les côtes nord du pays. Un phénomène d'une ampleur inédite qui a mis à l'arrêt de nombreuses activités. Vous avez le programme de cette dernière demi-heure d'RFI Midi, tout de suite le journal. Avec vous, Simon Bourtembourg, et pour commencer, Simon, cette question lancinante en Israël.
Quel est l'état de santé des otages du Hamas ? Voilà l'interrogation qui met à rude épreuve les familles de ceux qui ont été enlevés par le Hamas le 7 octobre 2023. Des négociations indirectes sont pourtant en cours entre Israël et le Hamas. Elles ont repris ce week-end au Qatar. Michel Paul, vous êtes notre correspondant à Jérusalem. Michel, les discussions se concentrent sur la libération des otages.
Oui, on parle de progrès, mais pas de percée dans la négociation qui se déroule de manière en direct en ce moment dans la capitale qatarienne. Alors Simon, ce sont les dernières estimations ici à Jérusalem. En fait, depuis ce matin, tout tourne autour d'une liste que le Hamas aurait fait parvenir aux négociateurs israéliens par l'intermédiaire, bien sûr, des médiateurs. Selon plusieurs sources qui ont pu la consulter, elle comprend 34 noms d'otages libérables dans un premier temps, 10 femmes et 11 hommes âgés de 50 à 85 ans et aussi 2 enfants apparemment, donc il s'agit de Kfir et Ariel Bibas. En Israël, on affirme qu'il s'agit d'une liste déjà ancienne qui avait été communiquée par la partie israélienne à l'organisation islamiste il y a de cela plusieurs mois et surtout qu'il n'y a aucune indication sur le statut vital des otages en question. Depuis vendredi, une équipe de négociateurs israéliens se trouve à Doha. Le chef du Mossad, lui, David Barnea, qui devait se rendre ce matin dans la capitale qatarienne, est toujours en attente. On indique ici qu'il fera le voyage seulement pour finaliser un accord de trêve à Gaza et aussi pour la libération des otages.
Michel Paul, correspondant de RFI à Jérusalem, merci à vous.
En France, Emmanuel Macron, pour le moins exhaustif devant les ambassadeurs.
La première prise de parole de l'année pour le président français qui a balayé les grandes orientations de Paris en matière de diplomatie. Ukraine, Syrie, Iran, terrorisme, une allocution annuelle traditionnelle où toutes les grandes crises ont été évoquées. Emmanuel Macron en a aussi profité pour faire passer un message à Donald Trump. Il a rappelé que la première visite du président américain élu était en France à l'occasion de la réouverture de Notre-Dame.
Je sais aussi une chose, c'est que si on décide d'être faible et défaitiste, il y a peu de chances d'être respecté par les États-Unis d'Amérique du président Trump. Et donc, à bon entendeur, salut. À nous de savoir coopérer avec le choix qui a été fait par le peuple américain. Je crois que le président Trump sait qu'il a en France un allié solide, un allié qu'il ne mésestime pas, qui a des vues claires, qui porte une ambition pour la relation transatlantique, mais une ambition lucide.
Le président français Emmanuel Macron.
Les États-Unis, justement, nous y sommes. Le Congrès se réunit pour certifier l'élection de Donald Trump.
Et ce, quatre ans, jour pour jour, après l'assaut lancé contre le Capitole par des partisans du candidat républicain qui refusait alors de reconnaître sa défaite face à Joe Biden. Aujourd'hui, alors que Donald Trump s'apprête à revenir au pouvoir, ses partisans se livrent sur les réseaux sociaux à une véritable réécriture de l'histoire. Sophie Malibaud, on assiste à une guerre des récits.
Oui, tout à fait. Alors la roue tourne. Hein. Les assaillants du Capitole poursuivis en justice hier se frottent les mains aujourd'hui dans l'espoir d'un pardon présidentiel. Et sur les réseaux sociaux, cela se traduit par la circulation d'un narratif les présentant comme des patriotes héros de la nation pour avoir tenté de sauver la Constitution, disent-ils. Ils se sentent d'autant plus encouragés à propager cette version des événements que leur idole, Donald Trump, n'a cessé de se dire victime d'une élection volée, en dépit du rejet de tous les recours en droit. La réalité factuelle leur donne tort, mais des images habilement montées tendent à présenter l'incursion au Capitole comme un grand moment de protestation pacifique. En réalité, les vidéos de manifestants aux allures de touristes sont des séquences choisies. Elles montrent des agents débordés, est en train de tenter une désescalade de la violence. Car de la violence, il y en a eu ce jour-là. L'un des policiers lynchés par la foule raconte cette journée dans un livre. Le plus dur, explique-t-il, c'est de se trouver à présent accusé d'avoir participé à un vaste complot anti-Trump. C'est le principe de l'inversion accusatoire.
La Sophie Malibaud de la cellule Info Vérif de RFI. En France, il est arrivé il y a 30 minutes au tribunal de Paris, accueilli par des dizaines de journalistes. Nicolas Sarkozy, présent pour l'ouverture de son procès. Cette fois-ci, c'est dans l'affaire du financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007 que l'ancien président comparaît devant les juges.
Et puis, des influenceurs algériens dans le viseur de la justice française.
Ils sont trois à avoir été arrêtés ces derniers jours à Brest, Grenoble et Montpellier. Des partisans du régime algérien accusés d'avoir posté des appels à la haine sur les réseaux sociaux. Marie Cazadebeg, il s'agirait d'un mouvement bien plus large qui se déploie notamment sur TikTok.
Cet Algérien doit être jugé ce lundi à Grenoble en comparution immédiate pour provocation directe à un acte de terrorisme. Dans cette vidéo, depuis supprimée, il s'en prend aux opposants au régime algérien, qu'ils soient en France ou en Algérie.
Si quelqu'un bouge à partir du 1er janvier, ceux qui savent manier les armes vont vous achever et vous violer. Je vous le jure devant Dieu, nous allons tous vous violer en France et en Algérie.
Dans ce même poste, il exprime son soutien à un autre influenceur arrêté quelques heures avant lui à Brest, dans l'ouest du pays. Cet autre ressortissant algérien de 25 ans sera jugé fin février pour apologie d'un acte de terrorisme. La troisième arrestation a eu lieu ce dimanche à Montpellier, dans le sud. Mais les trois hommes sont loin d'être les seuls à menacer les opposants au régime du président Tebboune sur les réseaux sociaux. La préfecture du Rhône à Lyon annonce ce lundi avoir signalé les messages haineux de trois franco-algériens sur TikTok, dont celui-ci.
On est prêt. Le premier qui touche à l'Algérie, qui essaye de la faire tomber, qui essaye de créer un printemps arabe. On est les soldats de l'extérieur. On est les soldats dormants.
Si certaines vidéos ont été supprimées, de nombreuses autres sont toujours en ligne.
Marie Cazadebeg, au Canada, Justin Trudeau est-il en passe de démissionner? C'est en tout cas ce qu'on peut lire à la une de tous les médias ce lundi. Un retrait qui pourrait être annoncé dès aujourd'hui en amont d'une réunion nationale de son parti politique prévue mercredi. Le Premier ministre canadien est confronté à la plus grave crise politique depuis son arrivée au pouvoir il y a 9 ans.
À la fin de ce journal au Brésil et à Rio, où la ville prépare son carnaval.
L'effervescence n'est pas retombée après les festivités du Nouvel An. Alors, il vaut mieux battre le fer tant qu'il est encore chaud. La fête continue à Rio de Janeiro. La saison du pré-carnaval est lancée. Dès hier, les premiers groupes de musiciens ont investi les rues de la ville brésilienne. Reportage de Sarah Cozzolino.
Habituellement désertes le dimanche, les rues du centre de Rio vibrent au rythme des cuivres et des percussions. Alexandre, 48 ans, est collecteur d'impôts la semaine et saxophoniste amateur le week-end.
J'étais public du carnaval de rue pendant de nombreuses années et j'ai décidé de passer de l'autre côté pour jouer et transmettre cette folie au public. Aujourd'hui, on s'est bien amusé et ça a super bien fonctionné.
Loin d'être un événement improvisé, les groupes de musique répètent toute l'année. Igor, professeur de danse du Bloco Caramuela, a commencé la chorégraphie au mois d'août.
Ça nous avait tellement manqué, on comptait les mois. Pour nous, les cariocas, ça, c'est ce qu'on appelle la crème de la crème.
Il a déjà le corps plein de paillettes de toutes les formes et couleurs possibles.
J'ai toujours des paillettes sur moi, sur mes habits, dans ma maison. Les paillettes se sont même incrustées dans les sièges du métro. On ne peut pas y échapper. Les paillettes vont vous attaquer.
Un accessoire universel qui unit cariocas et touristes en vacances comme Anna.
Même si tu ne connais pas les musiques, en fait, tout le monde, il y a tellement une énergie qui est monumentale partout que du coup, déjà, tu finis par les connaître en plus. D'une soirée à l'autre et en vrai tout le monde est hyper chaleureux, enfin il n'y a pas d'exclusion.
Et la fête ne fait que commencer car l'ouverture officielle du carnaval sera au mois de mars. Sarah Cozzolino, Rio de Janeiro, RFI.
Et puis pas de but brésilien hier à Doha au Qatar, mais les Parisiens ont dominé Monaco 1-0 grâce à une réalisation d'Ousmane Dembélé. Le PSG remporte donc le trophée des champions.
C'était le journal de Simon Bourtembourg, RFI, 14h10 ici à Paris.
RFI Midi, l'actualité d'Haïti et des Amériques.
Les Les souvenirs sont encore douloureux aux États-Unis. C'était donc il y a 4 ans, jour pour jour. Le 6 janvier 2021, le Congrès américain était pris d'assaut par des partisans de Donald Trump. Journée particulièrement violente et ces images qui ont fait le tour du monde, des vidéos où l'on voit des hommes défoncer les portes du Capitole et menacer les forces de l'ordre pour y pénétrer. Bilan, 5 morts. Bonjour Anne Verdaguer.
Bonjour.
Anne, peut-on dire 4 ans après que la page est tournée sur place?
Bien, c'est en tout cas un tout autre contexte politique, puisque la victoire de Donald Trump sera sans surprise certifiée ce lundi par le Congrès américain. 4 ans donc, jour pour jour, après que le milliardaire a contesté les résultats de la précédente élection et la victoire de son prédécesseur, Joe Biden. Un Donald Trump qui a été accusé d'avoir été l'instigateur de cette insurrection. On se souvient qu'il avait prononcé un discours juste avant l'attaque, dans lequel il avait encouragé ses partisans à marcher sur le Capitole. Mais aujourd'hui, le président élu ne craint plus rien d'un point de vue juridique. Il a promis de gracier les émeutiers, dont certains ont été condamnés à de très lourdes peines de prison. Nicole Bacharan, historienne, politologue et spécialiste des États-Unis.
Donald Trump a promis de les gracier. Il aura le pouvoir de le faire. Il les appelle des patriotes, ce qui renforce son récit mensonger sur l'élection volée de 2020. Et puis il a introduit une petite nuance en disant: pour ceux qui n'ont pas fait les choses les plus graves, il y aura peut-être quelques distinctions à faire. Mais enfin, il va continuer à propager l'idée que ce sont de bons patriotes qui ont agi face à une élection volée.
Anne, est-ce que pour autant l'opinion américaine a tourné la page?
Alors c'est un peu plus compliqué. Hein. Si d'un point de vue juridique, les choses semblent être acquises, à présent, une partie de la société américaine restera profondément marquée par cet épisode. Nicole Bacharan.
Ça réveille des souvenirs bien douloureux pour beaucoup d'Américains et pour beaucoup de personnes à travers le monde qui sont attachées à la démocratie. Maintenant, politiquement, on peut dire qu'une majorité d'électeurs ont tourné la page puisque Donald Trump a été élu, non par un raz-de-marée, mais enfin par une vraie majorité incontestable. Donc, ils ont réellement tourné la page.
Voilà, et Joe Biden a lui appelé à ne pas oublier ou à ne pas réécrire les événements du 6 janvier 2021.
On continue de parler de cet assaut du 6 janvier 2021. Revue de presse, Vincent Souriau, on continue d'en parler, donc de ce 6 janvier 2021, pardon. Vincent Souriau, je vous le disais, bonjour.
Bonjour.
La presse américaine où Joe Biden livre sa version des événements.
Effectivement, Anne vient d'en parler, tribune à lire dans le Washington Post. Après ce que nous avons vécu ce jour-là en 2021, on sait qu'il ne faut plus rien prendre pour acquis, écrit le président sortant. Nous devons être fiers de notre démocratie qui a survécu à cet assaut, mais nous ne devons pas l'oublier. Malgré le mouvement permanent qui cherche à réécrire, voire à effacer l'histoire de cette journée, Joe Biden y revient. Il rappelle les milliers d'insurgés qui ont grimpé les murs du Capitole, brisé les fenêtres, abattu les portes. Ces policiers frappés, traînés, assommés, piétinés. Il faut, conclut l'encore locataire de la Maison-Blanche, s'engager à se rappeler du 6 janvier 2021, se rappeler d'un jour où notre démocratie a été mise à l'épreuve et se rappeler, conclut Joe Biden, que cette démocratie, même en Amérique, n'est pas garantie.
Et sur ce thème précisément, Vincent, la petite histoire dans la grande, c'est à découvrir sur le site de Politico.
Oui, celle d'Howie Liebengood, un agent de police qui s'est suicidé après l'assaut du Capitole. En tout, 4 membres des forces de l'ordre qui ont fait face à la foule du 6 janvier se sont ôtés la vie dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi. Politico nous raconte à quel point l'attaque du Capitole a servi de détonateur, révélé l'ampleur de la détresse psychique des forces de sécurité, leur niveau de stress post-traumatique, 25 fois plus élevé que la normale. Et tout cela a débouché sur un texte de loi sur mesure qui a permis de requalifier le suicide d'Howie Liebengood et de ses collègues policiers. Ils sont considérés depuis 2022 comme morts en service et leur famille habilitée à recevoir les garanties financières et juridiques prévues par l'État américain dans ce genre de circonstances.
Merci Vincent Souriau, vous restez avec nous pour la suite de la revue de presse dans quelques instants. Nous serons en Haïti. Les États-Unis encore, où Joe Biden doit recevoir Edmundo González Urrutia ce lundi, l'opposant vénézuélien qui continue de revendiquer sa victoire à la présidentielle du 28 juillet dernier. Un scrutin entaché de fraude selon son camp et dont les résultats n'ont pas été reconnus par une grande partie de la communauté internationale. Hier, il a lancé un message aux forces armées assurant devoir, je cite, « assumer le rôle de commandant en chef le 10 janvier, jour précisément de l'investiture du président réélu Nicolas Maduro, des forces armées considérées comme un pilier du pouvoir en place et qui lui ont à plusieurs reprises juré fidélité ». Je vous propose d'écouter Edmundo González Urrutia.
Conformément à la Constitution de 1999 promue par Hugo Chavez, selon la volonté souveraine du peuple vénézuélien, je dois assumer le rôle de commandant en chef. Il est nécessaire de mettre fin à un leadership qui a dénaturé les principes fondamentaux et moraux de nos forces armées. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur désir de changement avec le reste des Vénézuéliens en votant contre cette direction qui ne représente pas une garantie de stabilité ou d'avenir pour le Venezuela. À partir du 10 janvier, nous devons agir avec détermination et unité pour protéger notre Venezuela. Notre mission est de restaurer la souveraineté populaire qui s'est manifestée par le vote et de garantir la paix de notre nation. Par conséquent, il est de notre devoir de suivre le cadre juridique défini dans la Constitution actuelle.
Establecido en la Constitución vigente.
Edmundo González Urrutia, qui devrait être, je vous le disais, reçu par le président américain Joe Biden à 4 jours de l'investiture de Nicolas Maduro, à 2 semaines de celle du président américain élu Donald Trump, ce sera le 20 janvier. Voilà plus d'une semaine que les côtes du nord du Pérou ont été frappées par des vagues destructrices, un phénomène très rare dans cette région du globe, conséquence des courants marins qui se sont frottés aux conditions atmosphériques, ajoutez à cela des vents très violents dans le Pacifique Nord au mois de décembre. Sur place, l'océan a détruit une grande partie du littoral de la station balnéaire de Mancora. Le reportage à Lima de Martin Chabal.
Les blocs de béton sur la plage sont les derniers vestiges de la promenade le long de la mer emportée par les vagues il y a près de 10 jours. Avec sa brouette remplie de sable et de débris, Marcos nous montre ce qui était avant son hôtel.
Ici, c'était des chambres partout. Maintenant, il n'y a plus que du sable. Là, tu avais des cabanes de 2 étages. Tout est parti à la mer.
Là, je suis censé me trouver au milieu de la chambre de l'hôtel de Marcos, mais ici, il n'y a plus que des pierres et du sable. Juste au-dessus de moi, il y a une moustiquaire qui est le dernier vestige de cette chambre, de cet hôtel.
On est tout seul. On espère quand même qu'on va nous aider. Ils ne sont jamais là quand on en a besoin. Ils ne nous prennent pas en compte. Ils ne nous voient pas. Et ils ne viennent même pas ici.
C'est avec énormément de tristesse que Marcos fait appel aux autorités pour lui venir en aide. Les sacs de sable d'une tonne qui sont normalement suffisants pour contenir les vagues n'ont pas pu protéger l'hôtel cette fois-ci. Son fils, Marcos aussi, était là quand les vagues ont commencé et ont tout emporté.
J'étais dans une chambre et les gens qui étaient à l'hôtel ont commencé à partir. Quand la première vague est arrivée, certains sont partis vers une zone plus sûre. Je ne sais pas si j'ai eu peur, c'était une sensation nouvelle. Et je voulais juste que ma famille soit en sécurité. C'est la seule chose à laquelle je pensais.
Pour les pêcheurs, la situation aussi est critique. Juan a 71 ans, il a du mal à trouver les mots pour décrire la violence des vagues qui ont frappé les côtes en début de semaine dernière.
Ça a dépassé le haut du quai, ça a emporté des bateaux qui ont été réduits en poussière.
Et Juan ne peut toujours pas aller pêcher, les vagues pourraient encore revenir.
Je vends bien sûr moins de poissons, on ne peut pas sortir nos bateaux à cause du drapeau rouge.
Ce phénomène de raz-de-marée est d'une ampleur inédite et touche fortement le littoral nord du Pérou, habitué à accueillir des milliers de visiteurs pour les fêtes de fin d'année. Carlos, lui, a perdu la terrasse de son bar, mais il tente quand même de garder le sourire.
Ah, que puedo hacer? Limpiando, porque yo preparo tragos.
Qu'est-ce que je peux faire d'autre que nettoyer ou préparer des cocktails? Regarde, j'ai fait une pancarte Happy Hour et je vais sur la plage pour dire Happy Hour aux gens et eux viennent prendre un verre chez moi. Et bien sûr, ça fait mal au portefeuille, mais c'est comme ça.
Duele le bolsillo porque bueno.
Les répercussions économiques de ce raz-de-marée sont forcément très importantes. Pour la ville de Mancora, qui est l'une des villes les plus touchées sur le littoral péruvien, les autorités estiment les pertes à près de 200 000 euros, alors que de nouvelles vagues sont attendues jusqu'à la mi-janvier. Martin Chabal, Lima, RFI.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
Et on vous retrouve, Vincent Souriau, l'actualité d'Haïti marquée par le renforcement de la MMAS.
La fameuse mission multinationale d'assistance à la sécurité censée soutenir la police haïtienne dans sa lutte contre les groupes armés. 77 officiers guatémaltèques sont arrivés il y a deux jours à Port-au-Prince à bord d'un avion américain. 77 hommes, en plus des 75 soldats déjà du Guatemala qui avaient atterri la veille en Haïti, ainsi que 8 militaires du Salvador. La MMAS totalise à ce jour environ 700 personnes. On est encore loin des 2500 membres qui devaient la composer à l'origine.
Et donc encore très loin de garantir la sécurité des Haïtiens.
Un exemple parmi tant d'autres, la mort d'un jeune entrepreneur de 37 ans hier, Robinson Randel, tué dans la cour de l'église Notre-Dame du Perpétuel Secours dans le quartier de Delma 75 à Port-au-Prince, abattu par des hommes à moto. Assassinat condamné par l'archevêque de Port-au-Prince. Il fustige, je cite, un acte barbare qui ne témoigne d'aucun respect pour la vie humaine ni pour les lieux sacrés.
Insécurité qui force des milliers de familles à fuir leur quartier et bien souvent tomber aux mains des gangs armés. Une quête de sécurité qui plonge l'île dans une nouvelle crise, celle du logement. Si des rares zones relativement sûres existent encore, il est devenu quasiment impossible d'y trouver un toit. Les faux courtiers aux pratiques frauduleuses fourmillent, les propriétaires ont tendance à faire flamber les prix. Et pendant ce temps, ce sont des familles entières aux avenirs incertains qui se retrouvent dispersées ou forcées de vivre dans des conditions précaires. Correspondance à Port-au-Prince de Peterson Luxama.
À Port-au-Prince, la crise du logement est devenue un sujet d'actualité au centre des discussions. Chassées par la violence des gangs, des centaines de familles errent aujourd'hui à la recherche d'un toit. Mais pour beaucoup, la route est semée d'embûches, comme en témoigne Watson, un jeune croisé à Pétionville.
Grave problème.
C'est un problème sérieux. La question du logement est devenue presque insoluble, extrêmement difficile. Une chambre que l'on pouvait louer autrefois pour environ 400 dollars américains peut maintenant être proposée entre 1000 et 1200 dollars. Et malgré ces prix exorbitants, il est souvent impossible d'en trouver une.
Et au pas quand même jeune ni même.
Le constat de Baptisma n'est pas différent. Certains de ses proches sont à la recherche d'une maison depuis plusieurs semaines. Impossible à trouver en raison de la forte demande qui provoque une flambée des loyers.
Nombreux sont ceux qui essaient une zone, puis s'installent dans une autre. Cela provoque une concentration dans les quartiers où ils arrivent qui n'étaient pas aménagés pour accueillir autant de personnes. Les propriétaires en profitent pour doubler, voire tripler les prix des maisons.
L'argent, un casse-tête aussi pour Jean-Tel l'aîné et sa famille, qui habitait Nazon, un quartier pris d'assaut par les bandits armés. Aujourd'hui, séparés, ils souhaitent se réinstaller, mais la hausse des prix des logements les freine.
À dire vrai, je n'ai même pas vraiment cherché de logement, car nous n'avons pas suffisamment de fonds. Ces logements coûtent 2000 voire 3000 dollars américains. C'est impossible si vous n'avez pas quelqu'un pour vous aider. Avant, ma famille et moi vivions ensemble, mais maintenant, chacun est obligé de se débrouiller de son côté.
Trouver un logement à Port-au-Prince est devenu un véritable parcours du combattant en raison de la montée en puissance des gangs armés. Des communes comme Pétionville et Delma servent de refuge pour certains déplacés internes, mais même ceux qui réunissent la somme demandée par les propriétaires se heurtent parfois à des refus. Les propriétaires hésitent à louer à des personnes venant de quartiers jugés dangereux, comme le souligne Watson.
Parfois, le propriétaire hésite à louer sa maison parce qu'il ne sait pas à qui il a affaire. Si vous êtes un jeune homme, c'est encore pire. Si vous êtes une jeune femme avec des tatouages, ils hésitent encore plus à louer. Et même si vous arrivez à louer la maison, cela reste dangereux, car vous pourriez être victime de violences à tout moment. On vous surveille constamment pour savoir de quelle zone vous venez ou si vous êtes en fuite.
Mais la crise du logement ne se limite pas seulement aux réticences des propriétaires à louer à des personnes inconnues. Carlin, journaliste photographe, décrit un autre phénomène inquiétant.
Il y a beaucoup de gens qui se font passer pour des courtiers et recherchent des maisons à louer sans que les propriétaires soient au courant. Ces courtiers identifient des maisons à louer et les publient sur Internet. Par exemple, un propriétaire peut décider de louer sa maison à 2000 dollars, mais le courtier, lui, en demande 2500. Ensuite, pour qu'il vous fasse visiter la maison, vous devez payer des frais supplémentaires. À cela s'ajoute un pourcentage que le courtier exige si vous réussissez à louer la maison.
Une situation qui reflète l'ampleur de la crise humanitaire à Port-au-Prince. Et pour beaucoup, La question n'est plus seulement de trouver un toit, mais de savoir s'ils pourront un jour retrouver une vie normale. Peterson Luxama, Port-au-Prince, RFI.
RFI. The World's Voices.
Vous êtes resté avec nous, Vincent Souriau, pour la fin de votre revue de presse. Aux États-Unis, cette alerte météo dans le centre du pays.
Plus de 60 millions de personnes sur la trajectoire d'une tempête qui va balayer plusieurs États. État d'urgence décrété en Virginie, dans le Missouri, dans le Kentucky. La presse locale nous montre les autoroutes bloquées, rafales de vent, neige, verglas et pluie glacée. Les autorités américaines demandent à la population de rester confinée chez elle. Transport par la route ou le train quasi impossible. Dans le Kentucky, bâtiments publics fermés, cours à distance pour les écoliers et froid intense attendu dans les jours qui viennent, au moins jusqu'à vendredi, ce qui ne devrait pas faciliter le retour à la normale.
Merci pour cette très complète revue de presse, Vincent Souriau.
Le journal de l'Outre-mer.
Et on retrouve Benoît Ferrand à la une ce lundi 6 janvier. Benoît, un peu plus de deux semaines du procès de son leader, Rodrigue Petitot, le RPRAC reste mobilisé contre la vie chère en Martinique.
En ce début d'année, le mouvement à l'origine de la contestation a, si l'on peut dire, deux sujets sur le feu. Le procès de son leader charismatique, vous l'avez dit, ce sera le 21 janvier prochain. Et les premières timides baisses des prix dans les commerces locaux. Aude Goussard est l'une des porte-parole du RPRAC. Elle est bien sûr au micro de la première Martinique.
Ben je pense que les consciences avec les fêtes de fin d'année ont dû s'apaiser. Effectivement, nous avons pu voir que des maires ont déclaré qu'attaquer pour eux ne voulait pas dire que leur intégrité physique était menacée. Donc il y a eu des courriers qui ont été adressés au procureur lors du dernier procès de Rodrigue. Il semblerait que ce soit le maire du Marin. Mais nous avons des rencontres encore à programmer avec des élus, pas spécifiquement dans le cadre du 21 janvier, mais pour continuer nos échanges et peut-être dédiaboliser un démarrage qui était plutôt en demi-teinte. Et là, l'objectif, nous sommes un peuple. Hein, nous pouvons être divisés sur certaines questions, mais les problématiques qui nous touchent nous concernent tous. Donc il est peut-être temps que nous soyons en mesure de nous parler face à face, en toute sérénité. Nous allons rester sur le schéma de la vie chère, parce que même si nous avons soulevé un engouement populaire qui est certain, la satisfaction sera entière que lorsque nous aurons fait véritablement baisser les prix. Aujourd'hui, c'est très timide, ce n'est pas suffisant.
On reste en Martinique avec un sujet plus ludique, le lancement de la saison carnavalesque qui va durer jusqu'au début du mois de mars tout de même. Hier, c'est au Lamantin que les festivités ont débuté.
Ça fait plaisir de revoir une parade après un an, donc ça fait du bien et puis de voir tout ce monde réuni pour ce partage, c'est juste formidable, c'est coloré, il y a des enfants, le temps... Donc, tout va bien.
Le mouvement est lent. Il faut un petit peu plus de chaleur, mais bon, c'est le début. Le temps de décrasse, c'est de la Noël et puis on repart.
Ça chauffe. Je trouve que c'est bien, c'est assez coloré, il y a pas mal de monde. Et puis après, tous ceux qui ont déjà vécu en Martinique, là, c'est bien qu'ils apportent un peu de chaleur, de danse, de musique et de chant.
Réaction recueillie au micro de Xavier Chevalier. Bon après-midi, à demain.
Merci Benoît Ferrand et à demain. Quelques notes musicales pour refermer ces deux heures d'RFI midi. On écoute l'Irlandais Fionn Regan avec June Song.
Sorrows leave.
Moonsong de Fionn Regan pour refermer cette édition d'RFI Midi. Merci à Vincent Biteau à la réalisation, à Emmanuel Klotz à la rédaction en chef. Merci à vous, surtout, fidèles auditeurs de la Radio du Monde. Demain, vous retrouvez Anne Cantner à la présentation, 14h29 ici à Paris, tout de suite sur RFI de vive voix. RFI Midi.